Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je voudrais ce matin que nous voyions ensemble, nous avons particulièrement passablement parlé du sacrifice de notre Seigneur Jésus, sacrifice expiatoire. Je voudrais le préciser, le dire et le redire jusqu'à ce que ce soit un langage qui vous devienne familier. C'est un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et ce matin, je voudrais en particulier que l'on voit ensemble les fruits de son sacrifice. Nous allons donc dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, et nous allons lire à partir du verset 10. Ésaïe 53, à partir du verset 10. Je vous laisse quelques secondes, le temps que vous ayez ouvert votre Bible et trouvé le passage que nous allons lire. On va lire donc du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Nous terminons, normalement nous devrions terminer ce matin, le chapitre 53, quoique il y aurait bien sûr passablement de choses à dire et à redire encore sur ce chapitre, tellement il nous annonce de belles choses. Amen. Voilà, je pense que vous avez trouvé le passage et je voudrais donc vous lire au chapitre 53, verset 10. Je vous lis donc dans la version que nous avons habituellement, la version Louis II. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je voudrais donc que l'on voie ce matin les résultats de son sacrifice, où j'ai voulu intituler les fruits de son sacrifice. Quand les parents meurent, ça c'est selon le cycle logique, il arrive hélas que les choses arrivent différemment, mais quand les parents meurent, habituellement les enfants reçoivent un héritage. En fait, la Bible elle-même dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants, ce qui est logique donc, d'amasser donc, et s'il reste quelque chose, eh bien ce sont les enfants bien sûr qui vont hériter. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois, pour diverses raisons, que des parents n'ont rien à léguer à l'enfant. Ils n'avaient rien, ils ne pouvaient rien léguer, donc c'est des choses qui arrivent. Quand le serviteur dont parle Ésaïe 53 meurt, vous avez remarqué qu'il meurt, puisqu'il est dit, il livre sa vie en sacrifice pour le péché, donc il meurt, et bien là, il se passe quelque chose d'inhabituel, c'est que lui, on le retrouve vivant et disposant lui-même des fruits de son sacrifice en faveur de ceux qui croient. Alléluia! Je trouvais pas ça tout à fait inhabituel, glorieux et merveilleux. Donc, nous sommes les héritiers, nous donc disposons de biens considérables. Nous sommes les bénéficiaires de la mort de Christ. Par nous, qui c'est nous, n'est-ce pas? Moi, dans mon langage, eh bien, je veux dire, bien sûr, ceux qui croient en lui, qui se sont repentis, ce sont là les enfants de Dieu, et en tant qu'héritiers, évidemment, ces enfants sont les bénéficiaires de sa mort. Amen. Héritiers de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, co-héritiers avec Christ. Voilà donc placé d'emblée déjà la chose telle que nous allons la voir ce matin. Avant d'aller plus loin, on a besoin de voir la traduction de certains textes. Par exemple, lorsque nous lisons le verset 10, on vient de le lire bien sûr, eh bien, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu. Et c'est vrai que la traduction, elle est bonne, il n'y a aucun problème, mais comme ça arrive bien souvent avec certaines langues, selon le contexte, c'est vrai que certains mots peuvent être traduits de diverses manières parce que le contexte nous y conduit. Et voici comment d'ailleurs on peut traduire ce verset 10, le début du verset 10. « Ce fut la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et d'ailleurs, littéralement, ce n'est pas le mot « souffrance ». Normalement, on devrait traduire par le mot « maladie ». Le même mot que Louis II, docteur en théologie, Louis II a traduit ce mot ailleurs par « maladie », eh bien, ce même mot, il est ici, n'est-ce pas, quand il est dit qu'il a plu à l'Éternel, ou ce fut la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, on peut logiquement traduire littéralement, il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie. Et ensuite, il dit, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, là j'ai pris la version à la colombe, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. J'ai tenu à traduire ainsi pour que vous compreniez qu'il y a la possibilité de traduire par le mot volonté. Volonté de l'Éternel. Le verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Et là, bien sûr, les traducteurs, comme n'importe quel autre traducteur, sont placé devant un texte, normalement, il est dit, à cause du travail de son âme, il verra. Il verra, et ça s'arrête comme ça. Et donc, nous comprenons les traductions lorsqu'il est dit, il rassasira ses regards. Dans les rouleaux de la mer morte, vous savez qu'il y a quelques années de cela, une découverte merveilleuse, riche, n'est-ce pas, importante a été faite dans des grottes, qui sont là, environnantes de la mer morte. Et parmi ces rouleaux que l'on a trouvés, il y a le rouleau du prophète Ésaïe. Imaginez un petit peu ce livre qui contient des prophéties extraordinaires, au point que certains ont dit, oh, ça a été écrit après que les choses se sont accomplies. Évidemment, ce n'est plus de la prophétie dans ce cas-là, c'est de l'histoire. Alors certains, incrédules, ont dit ça, et puis on a découvert les rouleaux de la mer morte. Mais les rouleaux de la mer morte, mes chers amis, la preuve, elle est là, scientifique, ils ont été écrits avant l'accomplissement de ces textes que nous avons. Bon, ceci pour vous dire que dans les rouleaux de la mer morte, le verset 11 dit, il verra la lumière. À cause du travail de son âme, il verra la lumière. Voilà comment ces hommes ont traduit. Et la version des Septante dit, il verra la lumière aussi. Vous voyez, donc on voit que ça se rejoint. La version en français courant a suivi un petit peu ce modèle. Elle dit ainsi dans sa traduction, « Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie. » Car certains traduisent ainsi la lumière de l'œil. Le verset 12 dit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Sa part avec les grands. Alors c'est vrai que on est là. Imaginez que vous vous trouvez des siècles avant, hein, avec des paroles là que vous ne comprenez pas parce que l'accomplissement n'aurait pas eu lieu, ou bien vous ne prenez pas au littéral les prophéties de l'Éternel. C'est évident que dans ce cas-là, on se demande ce qu'Ésaïe a bien pu vouloir dire, ou je dirais l'Esprit de Dieu a voulu dire derrière cette inspiration. Eh bien, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Littéralement, on peut lire ainsi le texte, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup en partage. Et beaucoup, c'est un mot qui parle de, pas de, d'être humain. C'est pourquoi, par exemple, version à la Colombe traduit ainsi, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Vous voyez? Et donc, ça diffère un petit peu de ce que nous avons lu tout à l'heure. Je lui donnerai sa part avec les grands. Bien sûr qu'il y a un mot grand qui signifie donc beaucoup, etc. On va le voir tout à l'heure. Et la suite du verset dit, il partagera le butin avec les puissants, tandis que la version des Septantes dit, et il partagera le butin du puissant. Pas la même chose, voyez. On peut donc lire ainsi, et le fort sera son butin qu'il se partagera. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus qui dit que l'homme fort, qui est plus fort que celui qui tient les dépouilles, eh bien il peut rentrer dans la maison de l'homme fort et lui prendre ses dépouilles et il partage le butin. Retenez donc ici la version que nous venons de suggérer. Alors il y a dans ce texte d'Ésaïe, à partir du verset 10, il y a la volonté du Père. Puisqu'il est dit, ce fut la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. Et il y a quand même quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui semble ici, comment je pourrais dire, gripper, je ne sais pas si c'est le mot, mais nos sentiments, parce qu'on s'est dit comment, ça a été la volonté de l'Éternel de le briser, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, la traduction peut être, il a plu à l'Éternel de le briser. Ça a été un plaisir. Le plaisir de l'Éternel a été de le briser. Alors on se dit, comment le plaisir de l'Éternel a été de le briser? La raison, mes chers amis, pour laquelle le serviteur a souffert en silence, comme nous l'avons vu dimanche dernier, c'est parce que ce fut la volonté de l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était pas les hommes, il aurait pu crier à l'injustice. C'est vrai que ce sont les hommes qui ont été les instruments. Mais Ésaïe nous dit, ça a été la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi ce serviteur est resté silencieux devant les mauvais traitements. Le mot volonté, en hébreu, c'est vrai, vous allez voir, il signifie plaire. C'est pour ça, ça a été donc un plaisir pour l'Éternel de le briser. Mais ça veut dire aussi vouloir, ça veut dire disposer, ça veut dire affection, plaisir, faveur, désir, plier, agréer, se complaire, volonté, agréable, voyez. Alors, à vous de voir, selon le contexte, comment ce mot vous pouvez le traduire dans cette richesse de signification. Ce que nous voulons dire ce matin, puisqu'il nous est dit que ça a été le plaisir de l'Éternel, ou la volonté de l'Éternel, c'est que de toute éternité, bien avant que la chose n'arrive, ce fut l'intense désir, si vous préférez, ça a été sa volonté souveraine, son dessein éternel que Jésus souffre cette mort. On est loin là de certains qui pensent que ça a été un accident, ou qu'il est mort en martyr, victime de ses idées, comme ça arrive encore aujourd'hui. Non! D'ailleurs, la Bible dit, il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'était déjà dans le cœur de Dieu, avant la fondation du monde. Le verset 10 se termine ainsi, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. C'est le même mot, la même racine que nous trouvons ici, où, si vous préférez, la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, quelle est cette volonté de l'Éternel qui prospérera ainsi? Eh bien, je vous suggère quelques pensées. Il est dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est ça la volonté de l'Éternel. C'est qu'en se chargeant de la faute des pécheurs que nous sommes, eh bien, mon serviteur juste justifie beaucoup d'hommes. C'est ça la volonté du Seigneur. Voyez-vous, la justification, elle est enseignée, même dans l'Ancien Testament. Mais bien-aimés, dans Éphésiens, au verset 6, pardon, il est dit, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est ça la volonté de l'Éternel. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui. » Ce n'est pas les hommes. Les hommes ne pouvaient pas faire cela. L'Éternel a pari les iniquités de nous tous et les a faites retomber sur lui. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il est encore question de la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Il parle de cette volonté divine qui était en vue dans les souffrances de Jésus. Écoutez bien ce que dit Paul, car c'est Paul qui a écrit cela. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et alors, écoutez ceci, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On trouve ici le mot plaisir et le mot volonté. Est-ce que Paul n'était pas en train de méditer Ésaïe 53 ? À voir, hein ? Bien sûr, je ne suis pas dans sa tête, évidemment, hein ? Ainsi, on découvre, mes frères et sœurs, avant la fondation du monde. Plusieurs fois, ce texte, cette expression revient sous la plume des écrivains sacrés. Personne donc n'a obligé Dieu le Père de conduire son Fils au brisement. C'était le bon plaisir de sa volonté avant la fondation du monde. Donc, il n'y avait personne qui était là pour l'influencer et lui dire, eh bien, nous, tu vas voir, c'est ça qu'on va faire. Et c'est cette volonté qui se trouve donc à l'origine de la création elle-même, de l'incarnation du Seigneur Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Tout est venu de la volonté de Dieu. Dieu voulait cela, alors les choses sont venues après. Voilà pourquoi le monde existe. Voilà à quoi Dieu travaille aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Nous on dit, oui, les humains essayent d'établir des démocraties, etc. Mais au-delà de tout cela, mes bien-aimés, lui, Dieu, il voit la famille qu'il veut fonder. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième lettre qu'il a écrite à Timothée, au chapitre 1, verset 9. Il dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voyez encore l'expression ici, avant les temps éternels, ça veut dire avant la fondation du monde. Je vous donne ce verset, mais traduction parole de vie, ils ont traduit ainsi, Dieu nous a sauvés, et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus avant que le monde existe. Voyez-vous, quelle est la volonté du Père, mes chers amis? Eh bien, elle est dans ce fameux verset de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le dessein de Dieu, c'est de nous sauver, mais il ne pouvait pas le faire sans l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Tout se tient, tout se tient. Vous ne pouvez pas croire une chose et l'autre parce qu'elle vous semble un peu trop surnaturelle, vous dites « Oh ça, moi j'y crois pas trop ». Comme disait notre frère Karim, je ne sais pas si c'est vendredi soir, ce monsieur qui commentait la naissance virginale de Jésus, et cet homme qui disait, oh, vous savez, c'est symbolique, etc. Comment voulez-vous qu'un chromosome vienne comme ça de nulle part si Marie n'a pas eu de contact avec un homme? Vous voyez, les gens, ça les dépasse. Alors ils disent, mais mes frères, mes sœurs, mes chers amis, si Jésus n'a pas été conçu miraculeusement par l'Esprit de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, alors il est né avec le péché. Et s'il est né avec le péché, comment pouvait-il nous sauver? Tout se tient dans la parole de Dieu et rien n'est contredit, ne se contredit dans les Écritures. Il n'y a pas que la volonté du Père, il y a la volonté du Fils aussi. Et la volonté du Père était aussi la volonté du Fils. Gloire à Dieu. La Bible parle du livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Nous savons que le Fils existait de toute éternité avec son Père. Or ici, il nous est dit l'agneau immolé dès la fondation du monde, mes frères et sœurs. Alors, Jésus, où était-il? Que pensait-il? Quel était son cœur? Quelle était sa volonté? Eh bien, on découvre donc que c'est de toute éternité que le Fils était prédestiné à être immolé. Car c'est lui l'agneau prédestiné à être immolé. Et quelle était l'attitude du Fils? Eh bien, nous lisons par exemple dans le psaume 40, il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et c'est dans ce même psaume que le pourquoi de l'incarnation est révélé, puisqu'il est dit dans ce même psaume 40, mais au verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, ça c'est des paroles de la bouche même de Christ, me voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour vous. » Vous remarquerez, tu n'as pas voulu les sacrifices d'animaux, alors je dis, me voici, je viens. Et cette parole est reprise dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 10 et au verset 4, il est écrit, en rappelant d'ailleurs le psaume 40, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu m'as formé un corps, c'est l'incarnation. C'est Jésus qui dit ça. « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, après qu'il lui dise, n'est-ce pas, tu m'as formé un corps, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc, nous découvrons ici que c'était la volonté du Père de le briser par la souffrance, mais c'était aussi la volonté du Fils, mes frères et sœurs. N'imaginons pas les choses à la manière humaine. Comme si le Père l'avait obligé, n'est-ce pas, et le Fils aurait souffert ainsi, malgré lui. Non? Matthieu chapitre 20, verset 28, le Seigneur Jésus dit ces paroles, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et à Gethsémané, Jésus a prié son Père, « Non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Et quelle était cette volonté? Eh bien, c'était de le briser par la souffrance pour le rachat du monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul, parlant de Jésus et de l'Église, il dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Amen. On découvre donc la bonne volonté de Jésus, sa parfaite union avec la volonté du Père. Maintenant, je voudrais vous parler des bénéficiaires. Nous avons parlé de son sacrifice, de la volonté de Dieu, et que Jésus est mort, donc... Mais il est question des fruits de son sacrifice. Et quels sont les bénéficiaires? Quels sont ceux qui vont profiter, excusez le mot profiter, de cette mort expiatoire de Jésus? Ce dernier passage qui nous parle du serviteur de l'Éternel et de ses souffrances, eh bien il commence, en réalité, vous vous rappelez, dans Ésaïe 52, verset 13. Donc avant le chapitre 53... Nous avons déjà vu qu'il était question du serviteur de l'Éternel et de ses souffrances. C'est là d'ailleurs qu'il est dit qu'il ne ressemblait même pas à un homme tellement il était défiguré. Dans cette portion de l'Écriture, donc, qui va du chapitre 52 au chapitre 53, jusqu'à la fin du chapitre 53, n'est-ce pas? Eh bien, nous trouvons plusieurs fois, par exemple, le mot hébreu « rab » ou au pluriel « rabim ». En hébreu, le pluriel se termine par « im ». Par exemple, nous, on est des goy. Mais en réalité, au pluriel, c'est goyim. Les goy, c'est les païens. Pour eux, nous sommes des goy. Au chapitre 52, verset 14, il est dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Vous avez le mot rabim. Plusieurs. Qui signifie donc plusieurs et qui signifie beaucoup. À vous de voir comment vous devez le traduire. Au verset 15, toujours... Chapitre 52, Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Quand on va au chapitre 53, verset 11, il est dit « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes ». Vous remarquerez plusieurs, beaucoup. C'est pourquoi, dit le verset 12, dans la version à la colombe, « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage ». Et toujours au verset 12, il se termine ainsi « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes ». Qui sont donc les bénéficiaires? Eh bien, il est dit « beaucoup ». Alléluia! Nombreux, plusieurs, hein? Tout simplement parce qu'ils vont croire et ils vont former l'Église de Dieu, ce peuple de Dieu sur la terre. Christ les a aimés et il s'est livré pour eux. Vous en faites partie? Alléluia! J'espère que vous poussez tous un glorieux Alléluia. Au verset 10, il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Voilà pour qui, n'est-ce pas, Christ est mort. Après avoir livré sa vie, il verra une postérité. Quant au verset 11, il est écrit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Quelles sont les choses qui vont rassasier son regard? Ou selon d'autres traductions, satisfaire son désir. Car son regard est satisfait, rassasié, ça veut dire qu'il est heureux de voir ce qu'il voit. Comme vous, lorsque vous avez fait quelque chose, après de durs labeurs, et vous êtes content de contempler votre travail. Eh bien, ici, nous est dit que son désir sera satisfait. Eh bien, c'est quand il verra tous ceux qu'il a rachetés. Gloire à Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand il verra ceux pour qui il est mort, il les voit répondre à son appel, il les voit répondre, hein, lorsque nous sommes dans les réunions, lorsque nous rendons témoignage, lorsque nous disons aux âmes, convertissez-vous, donnez-vous au Seigneur Jésus-Christ, voulez-vous, n'est-ce pas, de ce pardon, de la vie éternelle, de la gloire éternelle, Alléluia! Alors ce matin ici même, où est-ce que nous en sommes? Je sais, si je demandais de lever la main, beaucoup lèveraient la main en disant « moi, ça y est, c'est fait ». Mais est-ce que d'autres qui sont ici ce matin, êtes-vous passé par la repentance? Êtes-vous tout simplement un spectateur agréable, un auditeur qui dit « oh, c'est bien, j'aime bien ces réunions ». Oui, mais où en es-tu au point de vue de ton engagement? Avez-vous livré votre vie entière entre les mains de Jésus? Est-ce que vous faites partie des rachetés de Jésus? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, moi ça y est, je suis passé de l'autre côté, j'appartiens au Seigneur? Avez-vous goûté à l'amour de Dieu? Avez-vous expérimenté les bénédictions qui découlent donc de la mort de Jésus? Alors, quels sont les fruits de son sacrifice? Bien, premièrement, je crois qu'il faut mettre en avant la justification. Et pour cela, bien sûr, il faut, pour apprécier les bénédictions qui découlent de la mort de Christ, il nous faut comprendre que nous sommes nés pécheurs et que nous pratiquons le péché continuellement. Autrement dit, comment être sauvé avec la vie que nous avons menée? Paul dit dans Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou selon d'autres traductions, ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Alors en tant que pécheurs, bien sûr, nous ne possédons pas la justice de Dieu. Nous sommes incapables de pratiquer la loi de Dieu. Incapables. On essaye. Il y a des gens qui ont une vie fantastique. Mais ça fait rien. On n'y arrivera jamais. Le problème, c'est que la loi de Dieu condamne tous les transgresseurs à la mort éternelle. Alors, comment pouvons-nous donc être acceptés dans la communion d'un Dieu saint, alors que nous sommes, au contraire, repoussés à cause de notre situation de hors la loi de transgresseurs? Dans Ésaïe 51, verset 1er, Ésaïe nous révèle comment nous obtenons la justice nécessaire. Écoutez bien, je vais vous citer plusieurs versets. Au verset 1er, il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Vous remarquerez le mot justice, vous poursuivez la justice. Donc on ne l'a pas encore à ce moment-là, mais nous la poursuivons. Et voici ensuite la bonne nouvelle. Au verset 5, il est dit, ma justice est proche, mon salut va paraître. Ah, vous voyez ça, ça commence à venir. Et c'est ainsi donc qu'ensuite nous apprenons que cette justice ne s'obtient que par la mort expiatoire du serviteur de l'Éternel. Alors nous lisons dans Ésaïe 53, verset 11, « Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs fautes. Ça, c'est la version à la Colombe, par la connaissance qu'ils auront de lui. Les gens vont entrer en contact avec Jésus-Christ, ils auront connaissance de ce que Jésus a accompli pour eux. Jésus a dit, allez dans le monde entier, annoncez cette bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce qui vous est arrivé, la bonne nouvelle vous est parvenue. La connaissance que vous avez eue de Jésus vous a poussé donc à la repentance, à demander à Dieu le salut. Par la connaissance que vous avez eue de lui, le serviteur juste vous a justifié. Alléluia. Ainsi, nous sommes arrivés à la justification. Voilà comment nous l'avons obtenue, par une connaissance personnelle du Sauveur. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons, qu'est-ce que nous avons ? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. » C'est lui, grâce à lui. Il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Amen. Alors pour résumer un petit peu ce qui s'est passé pour notre salut, je dirais que lui, Jésus, était juste, et nous, les hommes, nous étions injustes. Et il y a eu donc transaction, j'appelle ça comme ça, peut-être vous trouverez d'autres mots, il y a eu transaction. Notre injustice a été placée sur Jésus, qui a ainsi été frappé à notre place, ayant pris bien sûr la place des injustes. Après sa résurrection, il se passe autre chose, c'est que Jésus nous offre les fruits de sa mort expiatoire. Si nous croyons qu'il a été frappé à notre place, alors sa justice nous est accordée et nous sommes justifiés. Si vous voulez, il y a double transaction. La première transaction, c'est nos péchés sont placés sur Jésus. La deuxième transaction, c'est quand ensuite sa justice nous est accordée, communiquée. Amen. La justice de Jésus nous est transmise. Lui, dit Paul dans 2 Corinthiens 5:21, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez la transaction ? Lui, il devient péché et nous, justice de Dieu. C'est ça la double transaction dont nous parlons ce matin. La deuxième chose que nous pouvons énumérer, évidemment, c'est le pardon des péchés qui va avec. Dieu ne peut pas nous justifier s'il n'y a pas eu pardon des péchés. La traduction à la Colombe dit au verset 15 du chapitre 52, « De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. » Là, il faut aller dans la version à la Colombe pour trouver cette traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. C'est étonnant que Ésaïe ait prophétisé ainsi ces choses-là. Eh bien, il est question ici de purification, tout simplement parce que la Bible parle de l'aspersion du sang de Christ. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre, d'ailleurs, dans sa première épître, au tout début de son épître, n'est-ce pas, qui nous dit à tous ceux qui sont rendus participants de l'aspersion du sang de Christ. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que vous avez été au bénéfice de la purification qu'apporte le sang de Jésus. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, il dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Gloire à Dieu. Voilà les bénéfices de sa mort, le pardon des péchés. Troisièmement, il y a la résurrection. Ésaïe n'a pas simplement parlé de la mort en substitution de notre Seigneur Jésus. Il a parlé aussi de sa résurrection, puisqu'au chapitre 52, verset 13, il dit « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. » À quel moment ces choses se sont-elles produites dans la vie de ce serviteur exceptionnel, c'est le Seigneur Jésus ? Eh bien, cette élévation, bien sûr, c'est la résurrection de Jésus. D'ailleurs, quand vous lisez dans le Nouveau Testament le mot « résurrection », vous ne le savez peut-être pas. Mais le mot qui est traduit par résurrection dans nos traductions, eh bien, veut dire relever, mes frères et sœurs. Veut dire remettre quelqu'un debout. Donc, nous revenons à Ésaïe. Cette élévation, c'est la résurrection de Jésus, qui est suivie de l'ascension, puisqu'il est dit, il s'élèvera, et ensuite, il sera haut placé, et ça, c'est l'intronisation de Jésus dans la gloire, dans les lieux célestes. Amen. Dans Ésaïe 53, verset 10, il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Nous avons vu tout à l'heure, livrer sa vie, il livre son âme, nous dit une autre traduction, parce que le mot vie et le mot âme, c'est le même mot en hébreu, n'est-ce pas? Eh bien, ensuite on le voit vivant, il livre sa vie, et puis il est vivant. C'est bien la résurrection de Jésus, puisqu'il dit, il prolongera ses jours. C'est la résurrection, bien sûr, de notre Seigneur qui est ici annoncé prophétiquement des siècles avant que cela n'arrive. Mais il dit aussi, le Seigneur, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 14, il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Autrement dit, vous avez compris, si Jésus est ressuscité des morts, tous ceux qui lui appartiennent participent à la résurrection. Pas n'importe laquelle. Comme dit l'Apocalypse, la première résurrection, heureux ceux qui ont part à la première résurrection parce que c'est la résurrection des rachetés. Alléluia! Et alors ensuite, au verset 12, selon la version à la colombe, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Jésus partage tout avec son peuple, avec les rachetés. Il n'oubliez pas qu'il est la tête, mais nous, nous sommes ses membres, nous sommes son corps. Et ce que la tête expérimente, son corps le vit aussi. Alléluia! C'est pourquoi la tête étant dans les lieux célestes, la Bible dit que nous sommes avec lui dans les lieux célestes assis. Amen! Une quatrième chose, c'est l'intercession. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment même, vous avez dans la gloire quelqu'un qui intercède pour vous? Amen. Vous dites, oh, moi je suis faible, je ne vois rien. Vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui prie et qui dit, Père, fortifie-la, fortifie-le, alléluia. Comme disait le Seigneur concernant Simon, il disait, j'ai prié le Père pour toi. Amen. C'est merveilleux de savoir que nous avons à la droite du Père quelqu'un dont les prières sont infaillibles. Amen. Oh, c'est merveilleux, alléluia. En effet, notre Seigneur est notre souverain sacrificateur, mais il est aussi notre médiateur et il est notre intercesseur. Dans Ésaïe 53, 12, il est dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est Jésus. Il a intercédé pour les coupables. Donc, il est intercesseur. Et je voudrais rappeler sa prière d'intercession dans Jean 17. On voit que le Seigneur Jésus nous transporte jusque dans la gloire du Père, hein, dans la présence du Père. Lorsqu'il dira au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. » Ça, c'est de l'intercession, hein. C'est pas bon? Où est le Seigneur? Dans la gloire. Et il dit, « Je veux que ce que tu m'as donné soit là où je suis, dans la gloire. » Dans la gloire, c'est bien dans la gloire qu'il parle, gloire à Dieu. On voit donc, mes frères et sœurs, qu'il nous a arrachés à notre perdition et qu'il nous conduit jusque dans la gloire. Et il y a son intercession qui est là et qui est bien sûr une intercession victorieuse. C'est ça la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Comme il dira ailleurs, sa volonté c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Amen. Vous êtes dans la main du Seigneur. Restez fidèles, car il a dit personne ne peut vous ravir de la main du Seigneur. Amen. Et puis, il y a tellement de choses à dire. Hein. Enfin, je vais quand même arriver à la fin. Il y a aussi le fait que nous devenons sa famille. Amen. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous êtes la postérité du Seigneur. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 2, il est dit, « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alléluia. Nous devenons les enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de recevoir Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Les gens de l'extérieur sont étonnés, on s'appelle frère, on s'appelle sœur. Hein? Une fois j'étais chez le coiffeur, et je ne sais pas de quoi on parlait. Alors je dis, oui, c'est comme disent les frères gitans. Je ne me rendais pas compte, j'étais en train de parler des frères gitans. Lui, il a peut-être compris, je ne sais pas trop quoi, hein. Mais enfin, c'est après que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais tu lui as parlé des frères gitans à cet homme, hein. Qu'est-ce qu'il a compris, hein? Et en tant que frères et sœurs, nous nous aimons les uns les autres. Tu aimes celui qui est derrière toi? Tu aimes celui qui est devant toi? Tu aimes celui qui est à côté de toi? Ah ben vous, c'est facile, hein, c'est votre mari qui est à côté, hein. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres, mes frères et sœurs? Ou est-ce que quand nous rentrons, nous disons à voir où est-ce qu'elle est assise, que je m'assois surtout pas à côté d'elle? J'espère qu'il n'en est pas ainsi, hein. Nous nous aimons les uns les autres et nous allons passer l'éternité ensemble. Si vous ne pouvez pas vous supporter maintenant, qu'est-ce que ça va être dans l'éternité, dites, hein? C'est le moment de commencer à s'accepter les uns les autres avec nos différences, parce que n'attendez pas que les gens soient comme vous pour les accepter. On ne sera jamais comme vous, hein? Certains diront heureusement. La famille de Dieu sera nombreuse, mes frères et sœurs. Il verra une postérité nombreuse, est-il dit. Alléluia. Ésaïe 54. Que nous verrons la prochaine fois. Au verset premier, il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Et puis au verset 13 de ce même chapitre, il est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Et puis ce fameux chapitre 7 de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean nous parle de la vision qu'il a eue de l'éternité. Et il est dit ceci, « Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je saute quelques mots et il est dit, « Et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Je voudrais terminer quand même avec une pensée qui est ici, qui se trouve dans Ésaïe 53. C'est lorsque, je précisais tout à l'heure, lorsqu'il dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser » par la souffrance. Et nous avons vu que c'est le mot maladie. C'est le même mot quand il est dit, il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Lorsqu'il est dit, habitué à la souffrance, un petit peu avant, toujours dans Ésaïe 53, eh bien le mot souffrance, c'est le mot maladie, mes frères et sœurs. Et on se rend compte donc que notre Seigneur, ces souffrances qu'il a subies, dont il est dit, brisé pour nos péchés. Il a été meurtri pour nos iniquités. On voit bien, le but, c'était les péchés, les iniquités. Mais ensuite, il nous a dit que ces mêmes meurtrissures nous guérissent de nos maladies. Dans le même sacrifice de Jésus, vous avez le pardon des péchés, l'expiation, le salut de votre âme, mais en même temps la guérison, puisqu'il est dit qu'il s'est chargé aussi de nos infirmités. Il a pris sur lui toutes nos maladies. D'ailleurs, Matthieu ne s'est pas trompé, quand dans son évangile au chapitre 8... il parlera du ministère de Jésus, et quand Jésus va guérir beaucoup de malades, il dira, c'est afin que s'accomplisse ce que a dit le prophète Ésaïe, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit a bien traduit donc la chose dans le Nouveau Testament. Donc il y a la guérison auprès du Seigneur, pour ceux qui en ont besoin. Amen.